France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Miguel Da Silva, je suis né le 7 janvier 1961 à Reims et je suis altiste.
Première rencontre décisive pour le Quatuor Isaïe aujourd'hui, ça se passe à Paris. Les quatre garçons dans le vent sont alors de vrais groupies.
Un soir, on va voir un concert du Quatuor Amadeus et une personne proche des Amadeus me dit « Vous devriez aller les voir après le concert et demander une audition. Si vous adressez à l'altiste, Miguel, vous devriez lui apporter des truffes de chez Fauchon, il adore ça. » Donc, après un concert Beethoven, avec Romano Tomasini, nous franchissons les coulisses du Théâtre des Champs-Élysées et j'arrive avec mes truffes devant Peter Schidloff. Et en fin de compte, je ne regarde pas Peter Schidloff, mais je regarde son Stradivarius, le McDonald's, qui est là comme ça. Et au bout d'un moment, il me regarde, il me dit bah, « Attendez, prenez-le, parce que là, vous avez l'air impressionné. » Alors, je prends le McDonald's, ça. Et Romano Tomasini, qui est avec moi, pose la question en français, « Maître, est-ce qu'on pourrait auditionner ?» Alors, il ne comprend pas bien. Alors, il s'exprime Romano en allemand, luxembourgeois. Alors, Peter Schidloff lui répond en allemand. Et puis, il lui dit, « Mais compliqué, tout ça, mais on fait un stage en Italie, à Città di Castel. » Et là, Romano, sa langue maternelle, l'italien, enchaîne en italien, avec un italien magnifique. Schidloff lui répond en italien. Et il lui dit, « Mais vous parlez combien de langues ?» Il lui dit, à part celle que là, l'allemand, le français, l'anglais aussi. Il continue en anglais. Et là, je sens que Schidloff, devant ce garçon doué, et puis ne lâchant rien, il se dit, demain, j'ai encore un concert. Après-demain, matin, où? Et là, moi, je lui dis, au conservatoire, rue de Madrid. Alors, on dit, rue de Madrid, parfait. Quelle heure? 10h, 10h, paf. Et puis voilà, on se retrouve avec Schidloff qui va bien nous écouter. Et en n'ayant pas de salle et en ayant un peu bluffé, quoi, parce qu'on ne sait pas si on aura une salle rue de Madrid. Et donc là, on va voir Marc Bleuze, qui à l'époque est directeur, et on lui dit, voilà, alors tout de suite, Marc Bleuze réagit d'une manière remarquable en disant, on dégage la session d'orchestre dans la salle Berlioz, et vous avez la salle de concert et avec pour Schidloff et vous. Et là, Schidloff arrive à 10h moins 5, on l'accueille, voilà. On commence les dissonances de Mozart, et il est à quelques mètres de nous, le visage comme ça, penché, scrutant chaque doigté, tout ça. On est tétanisé, on joue comme on peut, puis il se met au fond de la salle, et puis, à la fin du premier mouvement, il nous demande de continuer, puis on joue tout le quatuor. Il vient vers nous, et il nous dit, très simplement, voilà, j'ai rarement entendu un style comme ça en France, je trouve ça magnifique. J'aimerais bien que vous soyez nos élèves à Cologne. Voilà un numéro, voilà un personne à contacter, et vous vous inscrivez, et à chaque fois qu'on vient à Cologne, vous nous jouez quelque chose pendant le temps que vous voulez. Et on s'est inscrit à Cologne, on n'a jamais payé aucun écolage, j'ai jamais vu personne à l'administration, et pendant 3 ans, une fois par mois, pendant 3 jours, on joue le quatuor pour les Amadeus, et je joue de l'alto pour Peter Schidloff.
Il y avait tous les Amadeus ou il y avait...
Tous les Amadeus qui donnaient d'ailleurs à l'époque des cours différemment et des directions différentes et des conseils différents disant écoutez pas Brian Eno, le premier violon, il est à côté de la plaque, il a toujours été à côté de la plaque, la musique c'est moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou Lovett disait ça, voilà.
Ah, c'est un peu comme dans le Prova d'orchestra.
Exactement, voilà, c'était chacun, voilà. Mais j'ai senti humainement des gens... une dimension humaine, des gens qui s'aimaient sans se le dire, mais qui s'admiraient. Et ça s'est vu à la mort de Peter Schidloff en 87, parce que il meurt et Brian Eno dit cette phrase. Un journaliste lui demande si le quatuor Amadeus, ils allaient continuer. Il dit personne n'est irremplaçable dans un quatuor. 40 ans à ce niveau, ça c'est irremplaçable, donc on va s'arrêter. Thank you.
Vous êtes un quatuor français. Vous rêvez en même temps de cette école austro-hongroise. Du coup, les Isaïe, qui sont-ils ?
C'est un quatuor à cordes. C'est pas un quatuor français. Lorsqu'on passait des soirées avec Walter Levin à parler de musique, en septembre, on prenait toujours quelques
semaines. Walter Levin, il faut quand même préciser.
Oui, Walter Levin, quatuor La Salle. Premier des quatuors La Salle.
Avec qui vous avez travaillé également.
Oui, grand penseur. On a eu la chance, et une certaine forme d'intelligence, d'aller chercher dans différents esthétiques de quatuor. De mon point de vue, il faisait le mieux. Walter Levin était quelqu'un qui avait une intelligence de l'interprétation, de l'analyse musicale, des grands quatuors de Beethoven. Il pouvait nous parler très simplement de ce que Schoenberg avait trouvé comme secret dans les phrasés de Brahms, dans la dernière école de Vienne. Donc, on allait lui jouer cette musique-là. Donc, quand on posait la question, quand je lui dis, mais comment vous imaginez l'angle pour commencer notre carrière, comment il faut la poser, tout ça, et il a dit, avant d'être un quatuor français, soyez un quatuor à cordes. Donc, c'est pour ça que dans nos programmes, on aurait pu vite rentrer dans les pas de Vianova, de Parrainin, de Bernet, en jouant Debussy, Ravel, Fauré, Quintette de Franck, et grande musique. Mais on a tout de suite voulu jouer absolument du Mozart, parce que on a eu la chance que Decca-Land s'intéresse à nous. Et donc, quand on a eu ce contrat important avec Decca, on a très vite enregistré les 6 quatuors dédiés à Haydn de Mozart. Et donc, nos programmes étaient toujours équilibrés de cette façon-là. On jouait un quatuor classique, un quatuor français si on nous le demandait bien sûr, et puis un grand romantique ou une grande œuvre du XXe siècle.
Dans les bonnes fées qui se penchent sur vos berceaux, enfin que vous avez l'intelligence, comme vous le dites d'ailleurs, d'aller chercher, il y a les Amadeus, La Salle, et puis il y a aussi le quatuor Berg.
Oui, alors le quatuor...
Ça fait aussi partie de ces influences, et là on a à peu près la cartographie de ce qui a pu construire
Exactement.
Les Isaïe.
Exactement. Alors, ça,
Qu'est-ce qui vous apporte?
Alors, le quatuor Berg, on ne travaille pas avec le quatuor Alban Berg à l'époque, mais on va écouter tous les concerts. Moi, je suis fasciné par cet instrument à 16 cordes, cette science du pouvoir évocateur de l'intonation, de la mise en place. C'est une machine magnifique. Je dirais que la discussion avec les Berg nous apporte un éclairage sur le côté hyper préparé, hyper professionnalisation du métier de quartettiste. Mmh. On arrive, on connaît tout par cœur, on joue parfaitement tout. Nous, à l'époque, on arrivait plein d'entrain, plein d'énergie, mais pas du tout à ce niveau-là. Donc ça, on a essayé de corriger ça. Et puis après, on a eu la chance de jouer beaucoup avec les deux membres du quatuor Alban Berg. Et d'ailleurs, ça a été notre dernier disque, La Nuit Transfigurée, et notre dernier concert avec Valentin Erben et Isabelle Caricius à l'alto.
'84, c'est la fondation du quatuor Isaïe. '87, vous avez évoqué la figure de Marc Bleuze, qui a beaucoup fait, évidemment, pour qu'une école, en fait, française de quatuor à cordes se régénère.
Bien sûr.
On pourrait dire les choses comme ça.
Renaisse. Il a appelé ça comme ça, la renaissance du quatuor à cordes en France.
Et ça passe par quelque chose d'extrêmement factuel aussi, qui est de vous donner à chacun un salaire, afin que vous ne puissiez vous consacrer qu'à ça.
Exactement.
Ça veut dire, du coup, qu'on abandonne son poste à l'orchestre, à l'opéra.
Exactement. Marc Bleuze nous propose de financer la moitié de notre salaire. Christophe Giovannetti était à l'Orchestre de Paris. Moi, j'étais à l'opéra. Luc Parry-Aguera, entre-temps, nous avions changé de second violon parce que Romano Tomasini, notre premier second violon, voulait absolument... Il avait un rêve, c'était rentrer à l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et entre-temps, il est rentré à Berlin, donc devant un quatuor qui était en gestation. J'ai tout à fait compris son choix, il n'y a pas de problème. Et donc, Luc Maria Guerra était violon solo de l'Orchestre des Prix. Et donc, oui, Marc Bleuze nous a financé, enfin, le ministère de la Culture a financé des quatuors à cordes. Et le quatuor Isaïe était le premier, à concurrence de l'équivalent de 50% de ce qu'on gagnait dans les orchestres. Donc, on a pu démissionner, enfin, on devait démissionner. Et cette aide était sur 3 années. Donc, très vite, nous sommes partis avec un rythme de concert de, je dirais, la première année de 30-40 concerts, ce qui est, pour un jeune quatuor, suffisant pour monter les choses. Et après cela, bon nombre de quatuors français ont eu cette aide. Nos confrères, le quatuor Parisi, le quatuor Manfred, le quatuor Ludwig, enfin. Et c'est devenu vraiment une pépinière, un renouveau, une renaissance du quatuor à cordes en France. Et au bout de 3 ans, on a frappé à plusieurs portes et là, on a eu une aide qui a continué encore pendant 2 ans avec la Fondation BNP Paribas. Ça nous a permis, non pas de vivre mieux, si ce n'est que ça nous a permis d'avoir cette sécurité financière pour pouvoir encore une fois faire des choix. C'est-à-dire de ne pas passer à 90 concerts et de jouer tous les programmes qu'on vous demande, mais justement de dire on va prendre le temps de faire les choses. Et puis après, les choses se sont accélérées avec les concours internationaux.
Le concours notamment, donc la rencontre avec Yehudi Menuhin,
voilà,
en Angleterre.
Ça aussi, c'est une rencontre importante, très courte. Peut-être une des rencontres les plus courtes dans ma vie et les plus denses avec Menuhin.
Comment vous le rencontrez?
C'est au concours de quatuor à cordes de Portsmouth que l'on passait avec le quatuor Isaïe. Le premier concours international que l'on passait, Yehudi Menuhin était président du jury. Et comme dans tous les concours, au moment de la finale, on était en finale, tout ça, on était très contents, nous, déjà, d'être en finale. Et puis, je me retrouve dans le couloir avec M. Menuhin à côté de moi, et qui vient me voir et qui me dit « Monsieur, c'était magnifique ce que vous avez fait avec le quatuor Isaïe. » Je dis « Maître, merci, enfin, venant de vous. » Puis il me dit « Je ne sais pas comment les choses vont se passer dans quelques minutes, au moment des résultats, mais je voudrais vous aider. » Mais je dis, écoutez, merci beaucoup. Pour cela, est-ce que vous avez un morceau de papier? Je voudrais vous écrire une phrase, et puis cette phrase, vous allez la mettre dans votre curriculum. Et il prend un morceau de papier, et il écrit, à ces 4 2 T, il fait une seule faute d'orthographe, à ces 4 anges musiciens, je dois une des plus pures émotions musicales de toute ma vie. Yehudi Menuhin. Ça, c'était bouleversant. Mais, je sais pas, ce sont ce genre d'anecdotes, ce genre de petites choses qui vous donnent une confiance incroyable et qui vous fait gravir comme ça cet Everest musical qui est une vie de quartettiste.
France Musique, les grands entretiens de Miguel da Silva.
Et puis après, le concours d'Évian que voilà. Vous remportez en 1988, voilà. Et là, c'est parti.
Et là, c'est parti, c'est parti parce que...
C'est là que Deka vous repère?
Exactement, Deka nous repère et on commence par un disque de Debussy-Ravel, musique française. Là, c'est à l'époque où les choses ont bien changé maintenant, mais où une maison de disques comme Deka vous fait une carrière. Quand on enregistre Mozart, tout de suite, vous êtes invité à Salzbourg, à Vienne... Vous jouez pour André Achif, les Mozart, et André Achif est dans la même maison de disque que nous. Enfin, la machine s'accélère, et c'est là où on essaye de non pas la freiner, mais essayer de bien la maîtriser, quoi. Et ça, c'est pas facile.
Comment ça se passe quand on choisit ses camarades? Là, vous nous avez dit que les choses ont un petit peu changé. Donc, Christophe Giovannetti pour le premier violon, Luc Maria Guerra, second violon, vous-même, ne bougez pas. À l'alto, au violoncelle, est-ce que c'est toujours Carlos Dourté ou à ce moment-là c'est déjà Michel Poulet?
Carlos Dourté là nous quitte parce que la précarité de ce métier de quartettiste l'inquiète et il a très envie de rentrer dans un orchestre et d'avoir une sécurité. Et donc c'est là qu'il va se présenter violoncelle solo à l'Orchestre National et il va avoir ce poste. Et donc là, bien sûr, il part du quatuor. Et donc là nous rejoint un ami d'enfance, élève de Pierre Pénassou, Michel Poulet. Et donc là commence une histoire d'une grande intensité humaine.
Comment ça se passe? On cherche à construire quoi comme son?
J'étais très admiratif du quatuor Alban Berg lorsqu'il jouait en concert, mais je n'ai jamais été bouleversé par cette science, par cette mécanique de l'instrument à 16 cordes.
Très homogène.
Mais encore une fois, je suis très admiratif. Ce sont des très très grands musiciens. J'ai toujours été beaucoup plus intéressé par les quatuors comme Weig, les quatuors comme les Amadeus, les quatuors comme les Juilliard, qui s'imprégnaient des différentes individualités pour créer un son commun, mais avec comme un petit peu un diamant, avec différentes facettes, et avec chaque instrument, avec sa voix propre, son identité, et cette idée esthétique commune qui nous allions dans la même direction. C'est l'idée de rester nous-mêmes dans le groupe.
1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à quoi alors? Est égal à une cinquième entité qui serait le son qu'on fabrique tous?
Alors je pense qu'il y a un totem, je pense qu'il y a une cinquième personne qui existe dans un quatuor, qui est là comme ça, et qui fédère beaucoup de choses, qui fédère le son et qui fédère aussi le rapport au temps. Mais je crois que c'est ça qu'on cherchait en permanence à la répétition, c'est l'idée de l'abandon. L'abandon au temps de l'autre, l'abandon à ce que me propose l'autre. C'est une question de confiance aussi. Dans certains répertoires, vous savez que votre collègue a une facilité, un phrasé, vous pouvez lui faire confiance, c'est un petit peu après la main de l'enfant dans celle de l'adulte, quoi, qui traverse la rue, ou moi je sentais ça à l'époque, dans les Mozart que l'on faisait avec Christophe Giovanetti, je trouvais qu'il avait une vocalité, parfois même une sorte de fragilité dans le phrasé qui était bouleversante, et je me disais, mais c'est ça la direction, il faut juste essayer d'imiter ça en apportant parfois quelque chose susceptible d'améliorer.
Le doute a une place importante?
Il est essentiel. Il est permanent. Il vous ronge, mais c'est pour ça que vous allez à la répétition et c'est pour ça que vous faites ce métier.
Vous diriez que il se reposait sur quoi quand vous pensez à vous?
Les différents collègues vous diront la même chose si vous leur posez la question. J'étais une sorte de personne exigeante qui disait les choses parfois avec des formulations pas toujours adaptées, mais sur le fond en tout cas. Je crois qu'il y a eu une grande confiance. On se faisait confiance. Notre quatuor a toujours fonctionné sur des axes. Il y a toujours eu chez Isaïe un axe premier violon alto assez fort. Enfin, assez fort, assez dominant, mais pas dominant, assez moteur.
Est-ce que ça ne demande pas, quand on est en quatuor, une générosité particulière de faire des compliments? Vous qui aimiez tant qu'on vous fasse des compliments quand vous étiez élève.
Et bien sûr, et c'était complètement l'inverse. Chez Isaïe, pendant 30 ans, j'ai toujours vu ce qui n'allait pas. Et ce que je peux dire, ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que cette exigence a porté le quatuor Isaïe là où il est allé, mais ça l'a aussi tué. En 2014, quand on arrête, je crois qu'on est arrivé au bout de quelque chose, en tout cas humainement et dans notre travail. Oui, il fallait qu'on s'arrête là.
La question du pouvoir, elle se pose quand même aussi dans un quatuor, non? Est-ce qu'à un moment, il y a un leader, forcément?
Évidemment. Enfin, des leaders. Parfois c'est deux, parfois c'est un, ça change tout le temps. Mais ce qui compte, en fin de compte, c'est la réalisation de ce que vous faites.
Vous êtes musicien, vous donnez tous les quatre votre vie pour la musique. Donc, quand la musique se fait, quand la musique existe, comme vous aviez envie de l'entendre au concert, ça efface tout.
Oui, bien sûr.
On n'est pas obligé forcément de s'adorer pour bien jouer ensemble.
Mais surtout pas. C'est même plutôt... c'est bien de ne pas s'adorer pour très bien jouer ensemble. Non, je pense que moi, je formerais les choses différemment. C'est parce qu'on sait quoi on supporte tout cela en répétition qu'on peut le supporter. Parce qu'on sait qu'au bout... Il y a peut-être un opus 131 de Beethoven à jouer beaucoup mieux que ce qu'on a pu faire. Et que là, on va au moins au concert être tranquille. on va pas être arrêté par votre collègue qui va dire c'est encore faux au même endroit, mais que là vous allez pouvoir peut-être décoller et écouter quelque chose et voir que votre travail et que toute cette abnégation, toute cette difficulté de se sentir tout petit par rapport à l'œuvre et de supporter l'autre, c'est-à-dire votre collègue, dans sa formulation, dans sa violence, parfois, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence dans tout ça, hein, c'est ce moment-là qui vous fait accepter l'inacceptable. Ça, c'est une chose que je regrette. J'ai entendu des choses en répétition que je n'aurais pas dû accepter.
Peut-être Miguel da Silva, si on est encore un peu dans ce frémissement de ce quatuor, ces 10 premières années par exemple, c'est aussi les premières fois qu'on arrive dans des lieux mythiques. Je veux dire que c'est quand même pas rien quand on arrive au Wigmore Hall, quand on arrive à Carnegie Hall. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que là, pour le coup, on a l'impression de toucher à quelque chose dont on a rêvé?
Carnegie Hall, enfin la petite salle du Carnegie Hall, c'est juin 88. Je me souviens, c'est la première fois que je viens à New York. Et on joue donc au Weill Recital Hall et on joue Quatuor de Ravel. Et à la répétition, j'essaye d'être le plus confortable possible. Je demande un tabouret de piano que je règle. Et arrivé au concert, je sais pas ce qui se passe. Le même tabouret de piano était beaucoup plus haut et j'avais les pieds qui ne touchaient pas le sol pratiquement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est la fin du monde, quoi. Donc, enfin, bref, des anecdotes comme ça, mais ça, c'est lié au trac. Je me suis certainement assis bien plus en arrière et que j'avais pas les pieds qui touchaient par terre. Enfin, bref. Mais donc c'est c'est mythique le Wigmore Hall, c'était s'inscrire dans la tradition, j'y étais quoi. C'est-à-dire que les Amadeus avaient fêté leur 25e anniversaire, je crois, dans un enregistrement live chez un gramophone là. Donc je suis là quoi. Je suis dans la Gerald Moore Room et je mets mon étui d'alto à la place de celui de Schindler. Tout ça donne le vertige, tout ça fait peur, tout ça est exaltant. Et puis, ce que je trouve apaisant, c'est que vous allez sur scène et vous allez montrer ce que vous avez travaillé, est-ce que vous avez répété, est-ce que vous savez. Donc là, on n'a pas si peur que ça, en fin de compte.
Et est-ce que le trac, en plus, à 4, il n'est pas moindre que quand on se retrouve seul avec son alto pour un récital? Est-ce qu'on partage aussi ce trac?
Il est différent. À 4, vous pouvez être très agacé par quelqu'un qui a très peur à côté de vous, qui perd ses moyens et que vous êtes très à l'aise. Et cette personne est à contre-courant de ce que vous proposez. Et ça dure pendant 1h30. Et ça, vous lui pardonnez pas. Parce que vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Bon. Donc ça, c'est un track, une forme de track, ça peut vous arriver à vous, hein. Particulière. Le track de jouer debout, une sonate, un concerto, il ne repose que sur vous. Alors bien sûr, c'est vous qu'on entend plus. Enfin, vous n'êtes pas noyé dans une écriture dialogique, en accompagnant, parfois en faisant un thème. Là, vous êtes une prima donna tout le temps. Donc, bien sûr, il y a plus de pression. Mais si vous connaissez parfaitement, et si vous avez très bien travaillé, si vous êtes très prêt, si vous êtes très en phase musicalement ce que vous voulez faire, franchement, jouer debout, seul, moi, je trouve ça pas plus difficile. Je trouve ça presque moins difficile quand on est très prêt.
le tremblement de terre à la fin des 7 dernières paroles du Christ en croix de Haydn par le quatuor Isaïe pour refermer le 4e épisode des Grands Entretiens avec Miguel da Silva. Équipe de réalisation Gilles Blanchard, Yann Frécy, Olivier Dupré et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.